Bien évidemment, avec Daniel Haber, Blaise van der Linden va revenir sur la situation au Moyen-Orient, mais aussi sur les enjeux de la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Ces rencontres prévues le 14 et 15 mai prochain. Voici donc Daniel Haber au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On va évidemment parler de la situation en Iran et dans la région plus globalement. Alors Daniel, on a deux cessez-le-feu pour l'instant, que ce soit au sud Liban ou en Iran. Il y a un calme relativement apparent, on est dans une certaine période de latence. Que cela vous inspire, que cela vous dit pour analyser cette situation ?
Vous savez que le calme précède souvent la tempête et donc Trump menace aussi la tempête au cas où les négociations n'aboutiraient pas. Plutôt que de calme, je dirais que les cessez-le-feu ont stabilisé la situation sur les deux fronts que vous rappelez, le Liban et l'Iran, mais dans un contexte où on a quand même un conflit d'intensité assez élevée. Pour rappeler qu'au Liban, malgré le cessez-le-feu, celui-ci est violé, comme il l'a toujours été, par le Hezbollah. Je rappelle que les milices djihadistes terroristes ne sont jamais tenues par leurs engagements. Donc violer les accords, ça fait partie de, je dirais, de leur ADN. Et donc, comme ils ont attaqué Israël dès le 2 ou 3 mars, Israël en profite pour finir le travail qui avait été interrompu un peu trop tôt en novembre 2024 par un cessez-le-feu qui s'était un peu prolongé. Et donc là, on a des opérations très sérieuses au Liban. Aujourd'hui, c'est une guerre terrestre avec les soldats de Tzahal qui sont engagés sur le terrain entre la frontière israélo-libanaise et puis cette ligne jaune qui est à quelques kilomètres. Et là, ça se passe comme à Gaza, c'est-à-dire qu'on cherche ce qu'a bien pu y enterrer le Hezbollah depuis tant de décennies, et on n'est pas déçu parce qu'on trouve quoi? Des tunnels, on trouve des caches d'armes, on trouve des ateliers clandestins d'armement. Donc on voit bien que le Hezbollah depuis toujours, comme les Gazaouis, comme les Iraniens, préparait la guerre depuis un demi-siècle. En Iran, juste un mot, en Iran, le conflit, en fait, c'est la gestion du blocus c'est une gestion militaire par les Américains. C'est un blocus total du détroit d'Ormuz. Vous savez l'expression, les Américains ont pris en otage les preneurs d'otages. Donc voilà un petit peu la situation. Alors ce cessez-le-feu, c'est aussi l'occasion de négocier. Donc il y a deux négociations supposées être en cours. Au Liban, il y a une négociation entre les Israéliens et le gouvernement officiel libanais. Ça a commencé à Washington. Et donc l'idée est ensemble d'essayer de contraindre le Hezbollah. Bon, on n'avance pas beaucoup. Avec l'Iran, il y a cette fameuse négociation que les Américains et les Iraniens centrent sur le nucléaire. Et au fond, toutes les propositions qui viennent du côté iranien sont on va reproduire l'accord de 2015, ni plus ni moins. Et donc, c'est exactement ce que Trump ne peut pas accepter, puisque cet accord, il en est sorti et qu'il ne va pas signer l'accord épouvantable qu'avait signé son ennemi personnel, qui est Obama. Donc voilà où on en est.
Alors, Daniel, quelles sont les options auxquelles on fait face ?
Alors, l'option, donc, il y a deux options qui sont mises sur la table, négociation ou reprise des opérations militaires, sachant que c'est sur l'Iran qu'il faut se concentrer, parce que si un accord un jour ou si quelque chose se fait sur l'Iran, ça aura des conséquences sur la lutte que Israël mène avec le Hezbollah, qui profite de tout le temps qui passe pour accentuer son travail de démilitarisation du Liban Sud. Les options que les Américains ont vis-à-vis de l'Iran, c'est la négociation. Donc on vient d'en parler. On n'avance pas. Le plan 14 points n'ajoute rien au plan en 7 points ou 3 points. Les Iraniens sont fixés sur un horizon qui est le même depuis toujours d'ailleurs. Et donc il y aura pas d'accord sur le nucléaire. Sur l'action militaire, ce que proposent les militaires à Trump, Très franchement, tout le monde est d'accord pour dire que aucune opération ne comporte des risques acceptables, parce qu'il y aurait trop de morts américains. Et si aujourd'hui Trump arrive à continuer à faire la guerre malgré l'opposition au fond d'une grande majorité du peuple américain, c'est parce qu'il n'y a pas de, il y a pas trop de morts, pas de morts militaires. Bon, il y a quelques destructions, mais il n'y a pas de morts. Donc, il peut pas se permettre des opérations à haut risque, d'autant qu'aucune des opérations qui sont sur la table ne permettrait de, au fond, vaincre la résistance des gardiens de la Révolution. Eux, ils sont prêts à prendre tous les coups, les pires, parce que de toute façon, c'est la population iranienne qui en subirait les conséquences, et que eux, ce qu'ils veulent, c'est la survie de leur régime, quel qu'en soit le prix. Donc, voilà où on en est. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une impasse.
Oui, bien sûr. Justement, on est dans une impasse. Que peut faire Donald Trump face à cette impasse?
Écoutez, on n'en parle pas encore, mais quand on a deux options qui sont toutes les deux impossibles, il faut en choisir une troisième. Alors, évoquons ce que pourrait être une troisième option. Donc, il n'y a pas de négociation sur le nucléaire. Et au fond, on s'aperçoit que le vrai problème avec l'Iran, pour les Américains aujourd'hui, c'est le blocage du détroit d'Ormuz. C'est ça le vrai problème, beaucoup plus que le nucléaire. Le nucléaire, au fond, il a été gravement atteint par les bombardements de juin et de février-mars. Et donc le programme nucléaire, il est reculé d'assez longtemps, des mois, des années. Il n'est pas immédiat. Par contre, le problème du détroit d'Ormuz, lui, il est immédiat parce que il crée d'abord une crise pétrolière avec des risques de pénurie si ça se prolonge. Et puis derrière la crise pétrolière, vous avez la crise économique globale, c'est-à-dire une reprise mondiale de l'inflation et un déclin de la croissance, c'est-à-dire une vraie crise comme on n'en a pas connue depuis longtemps et qui toucherait tous les pays du monde. Alors, tout ça, c'est au fond, se ramène à une gestion du temps. Et c'est vrai que dans cette gestion du temps, les Iraniens ont plus de temps devant eux, puisqu'ils sont prêts à plus de sacrifices, que les Américains qui, eux, comme toutes les démocraties, ont des échéances démocratique, des opinions publiques, des médias, et des élections. Donc, l'Iran est capable de laisser bloquer le détroit d'Ormuz et de chercher des alternatives terrestres et autres, etc. Donc, les Américains peuvent prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et se dire, au fond, s'il y a une crise économique mondiale, qui va être touché? Et finalement, quand vous regardez qui va être le plus touché par ces blocus, ce blocus du commerce international, c'est forcément les deux plus grandes nations commerçantes du monde que sont la Chine et les États-Unis. Or, ils vont se voir le 14 mai, et la discussion pourrait, c'est une hypothèse, c'est cette troisième option, tourner autour de la liberté de navigation en général, pas seulement le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb, où les grandes compagnies chinoises ne peuvent plus passer par la mer Rouge, le canal de Suez pour vendre une grande partie de leur production à l'Europe, sont obligés de faire le tour par l'Afrique. Il y a aussi d'autres détroits qui sont tout d'un coup en danger, parce que personne n'y pensait, mais maintenant tout le monde va y penser. Détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie, c'est-à-dire des pays qui sont pas sous la coupe chinoise, qui sont plutôt dans le camp occidental. Et il y a les détroits de Taïwan, qui sont un sujet essentiel, sans parler des deux canaux, Suez et Panama, qui sont tous les deux importants pour les deux pays, évidemment pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine. Donc, la discussion qui pourrait avoir lieu serait ça, autour de la liberté de négocier, de navigation. On parlerait pas de l'Iran, parce qu'on peut pas demander à la Chine de prendre parti dans ce conflit avec l'Iran, parce qu'il est aux côtés de l'Iran et que il ne peut pas faire pression sur l'Iran, mais on peut contourner le problème. Et donc, on pourrait envisager un accord sur les détroits, sachant que faisant cela, Trump pourrait très bien abandonner toute idée de négociation, se retirer ou pas, et dire, ben, on est ramené à la situation d'avant le 28 février, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'accord avec l'Iran, puisque le JCPOA de 2015 s'était terminé automatiquement en 2025, c'était un accord pour 10 ans, et que ben on aurait comme bilan un Iran très affaibli, avec des proxys Hezbollah, Hamas, outils très affaiblis aussi, la Syrie qui a changé de camp, etc. Et donc ça serait une opération jouable, voilà.
Oui, pour terminer, Daniel, malheureusement, on arrive vraiment à la fin de nos conversations et on aura l'occasion évidemment d'en parler la semaine prochaine. Cette rencontre entre les deux hommes les plus puissants du monde, comment est-ce qu'on l'initie?
Écoutez, ce que je viens de décrire, c'est très optimiste. Il reste entre les deux pays beaucoup de méfiance. Je crois qu'il faut jamais oublier combien la Chine est catastrophée par le fait que les Américains, c'était Obama, sont passés d'une période de 40 ans de bonnes relations, presque, je dirais même amical, pas presque amical, mais vraiment amical, à une espèce d'hostilité. Alors c'est pas, ils sont pas ennemis les deux pays, mais ils sont en rivalité, ils sont hostiles. Les Américains essayent de contenir le développement de la Chine dans le rêve et de se développer. Donc c'est extrêmement dommageable pour la Chine. Inversement, les Américains sont pas prêts à renoncer à leur hégémonie, et donc faire un accord avec la Chine sur la liberté de navigation, c'est mettre le doigt dans une espèce de processus où il y aurait une co-gestion de l'ordre mondial des deux grandes puissances. Ça, c'est le rêve chinois, mais c'est pas encore accepté par Trump.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine dans les conversations. On se retrouve lundi prochain.
La prochaine.